vous avez le pied au niveau de la chaussure. On reste dans le cadre d'une finale, je n'en veux plus. C'est clair ?
Voilà. Non, j'ai pas touché.
C'est déjà
goal. Non.
Salut tout le monde, c'est Abdallah, vous écoutez Banquette, votre podcast foot, culture et société. Aujourd'hui, on va rentrer dans la tête des joueurs, car le foot ce n'est pas que de la technique, ça se joue aussi au mental. Et l'invité de ce 40e épisode en sait quelque chose, puisqu'il en a fait son métier. Gérard Baglin est ce qu'on appelle un préparateur mental. Il aide les sportifs et les chefs d'entreprise à mieux appréhender leur métier, mais il est surtout connu pour son travail auprès du Stade Malherbe de Caen en 2015. À l'époque, le club normand est bon dernier de Ligue 1 à la trêve et l'entraîneur, Patrice Garande, décide de faire appel à Gérard Baglin pour remettre son équipe sur pied. Résultat des courses, Caen fait une seconde partie de saison canon et finit par se maintenir en Ligue 1. Vous l'aurez compris, avec Gérard Baglin, nous avons donc discuté de son travail avec le Stade Malherbe, mais aussi de son métier de psychologie et de sophrologie. Enfin, il nous a raconté comment sa pratique du foot jeune a conditionné son envie d'exercer dans ce domaine de la préparation mentale. Allez, trêve de plaisanterie, Banquette épisode 40, c'est tout de suite. Bonjour Gérard, comment ça va ?
Bonjour.
Bah, je suis ravi de t'avoir dans Banquette pour parler un peu de préparation mentale.
Oui.
C'est un sujet qui est un peu à la mode en ce moment, donc je suis vraiment ravi de t'avoir. Mais avant de commencer vraiment, je voudrais qu'on mette les choses au clair. On a beaucoup parlé de toi à l'époque où tu as aidé le Stade Malherbe de Caen en 2015. Il y a plusieurs termes qui ont été utilisés pour désigner ce que tu fais, gourou, psychologue, préparateur mental, conseiller en entreprise. Donc pour que ce soit clair, j'aimerais que tu dises une bonne fois pour toutes ce que tu fais dans la vie, Gérard.
Une bonne fois pour toutes, je ne sais pas, parce qu'on évolue en permanence. Et ce que je fais, donc je travaille depuis 30 ans pour un cabinet que j'ai créé qui s'appelle Psynergie. Et je m'intéresse à la psychologie, justement, des hommes et des groupes. Voilà. Et donc, j'ai été amené, effectivement, à travailler avec le sport, avec l'équipe du Stade Malherbe de Caen. Parce que je suis passionné, j'ai toujours été passionné par la psychologie collective, par la cohésion d'équipe, etc. Donc voilà, c'est dans le cadre de mon cabinet que je suis intervenu auprès de l'équipe du Stade Malherbe de Caen.
Et avant de parler du Stade Malherbe de Caen, on va s'intéresser à ton métier vraiment. Donc tu conseilles des individus, des groupes, c'est plus des entreprises ou des particuliers, comment ça se passe ?
À 80% de mon temps, c'est le monde de l'entreprise. Mais voilà, parce que le métier dans le sport ou l'entreprise, c'est un peu la même chose. C'est dire que mon métier, en gros, si je peux définir comme ça, c'est que je permets aux personnes que je rencontre, aux entreprises, aux équipes, aux clubs, d'identifier un peu les freins à la performance. C'est-à-dire qu'est-ce qui va empêcher une équipe de réussir ou un individu de réussir. Et de là, à partir de là, eh bien, je vais accompagner cette équipe ou cet individu pour justement lever les freins et utiliser les ressources qu'elle peut avoir en elle.
Et c'est souvent les entreprises qui viennent te chercher ou ça arrive que toi, tu t'arrives en disant « Coucou, je suis là, je peux vous aider, ça se passe comment ?»
C'est vrai que depuis 30 ans, maintenant, je n'ai plus besoin d'aller faire du commercial. C'est un peu du bouche-à-oreille, quoi. Hein ?
Et tu fais quoi avec les entreprises, par exemple, donne-nous un exemple d'exercice que tu fais en entreprise ou avec des gens, un truc qui marche bien.
Par exemple, dans une entreprise où il y a des conflits, où il y a des grèves, où il y a des tensions, effectivement, je vais avoir une période d'audit. Essayer d'écouter, essayer de comprendre un petit peu, pour ensuite accompagner un peu le changement. Parce qu'effectivement, il y a des problèmes de relations humaines dans l'entreprise qui vont bloquer la performance. Mais on va voir que c'est un peu la même chose dans le sport, notamment dans l'équipe du Stade Malherbe avec qui j'ai travaillé.
Bah justement, quand tu as commencé ton activité, est-ce que tu avais imaginé à ce moment-là t'occuper d'une équipe de foot professionnelle ?
Oui, j'ai toujours, comme j'en parlais un peu tout à l'heure, depuis que j'ai créé mon cabinet, j'ai toujours eu cette espèce d'obsession qu'un jour, de vouloir travailler avec une équipe de football professionnel.
Alors, donc tu as réalisé ton rêve, on peut dire.
Oui, d'une certaine manière. Et c'est vrai que ça m'a toujours passionné peut-être d'apporter les 5% qui vont permettre à une équipe de se retrouver. C'est-à-dire qu'effectivement, un coach mental, un préparateur mental, c'est pas un magicien, mais c'est quelqu'un qui va savoir détecter, écouter ce qui peut bloquer l'équipe, ce qui peut freiner la performance.
Et avant de travailler avec Caen, est-ce que tu avais déjà essayé avant de t'occuper d'un joueur ou d'une équipe, pas forcément dans le foot, tu avais déjà essayé un petit peu de rentrer dans ce milieu-là ?
Bien sûr, j'ai eu l'occasion de travailler déjà avec des joueurs de l'équipe du Stade Malherbe de Caen. C'était en 93-94. Quand le nouveau club s'est créé. J'avais fait au préalable, pour m'intéresser un petit peu à ce secteur d'activité, j'avais fait une formation il y a 30 ans maintenant de sophrologue. Et ça m'a permis effectivement de très vite travailler dans la préparation mentale. Et à ce moment-là, j'avais des joueurs en individuel que je suivais à la demande de l'entraîneur, parce que ce même entraîneur, qui s'appelait Jean Dupeux, avait, quand il était joueur, utilisé la sophrologie, la méditation, etc. Et donc, ça a été très facile pour moi de travailler avec lui et de travailler avec les joueurs. Mais c'était plutôt en individuel, là.
Donc là, tu as parlé de sophrologie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Je pense que ce n'est pas une discipline qui parle à tout le monde forcément. Tu peux nous donner une définition de ce qu'est la sophrologie ?
La sophrologie, c'est l'étude de la conscience humaine ou de la sagesse humaine. Ça a été créé par Caicedo dans les années 1960. C'était un psychiatre d'origine colombienne qui était allé faire un petit séjour au Tibet. Et il pratiquait, lui, l'hypnose. Alors la sophrologie, c'est dérivé de trois choses. De l'hypnose. L'hypnose totale, telle que Mesmer la pratique, le yoga et la philosophie bouddhiste. Et donc j'ai eu cette formation qui m'a permis justement d'accompagner un peu des sportifs, mais aussi toute personne qui est stressée. Alors c'est quoi la sophrologie ? Eh bien il y a trois étapes. Il y a la première étape, c'est de mettre la personne dans un état de conscience modifié, donc dans un état de relaxation, qui va permettre à la personne justement d'explorer un certain nombre de choses qui se passent en elle. Et on va pouvoir, à partir de cet état de relaxation, eh bien pouvoir l'amener à se concentrer sur des choses, à pouvoir visualiser. On va utiliser l'imagerie mentale. Hein, si je te donne un exemple, tu veux que je te donne un exemple ? Par exemple, un footballeur qui souhaite travailler une reprise de volée. Eh bien, on va l'amener dans un état de conscience modifié, là où son cerveau va fonctionner au ralenti. On va l'amener à revisionner mentalement la mauvaise reprise de volée qu'il a fait. Et donc, on va travailler sur les sensations. On va lui faire imaginer comment il était placé sur le terrain, ses points d'appui sur le sol, comment il a vu le ballon arriver, comment il a armé son tir, etc. On va l'amener à reproduire mentalement cette mauvaise reprise de volée. Et donc, on va éliminer, par un certain nombre de techniques, ces mauvaises sensations physiques et mentales. Et ensuite, le remettre sur une reprise de volée qu'il a réussi un jour, ou une reprise de volée idéale qu'il a dans la tête. D'une certaine manière, c'est que le cerveau imprime ce qu'on lui fait imaginer dans cet état de relaxation. Et donc, ça produit des effets assez extraordinaires.
Je trouve ça hyper intéressant parce que moi, il y a un truc que je n'ai jamais réussi à faire sur un terrain de foot, c'est une bicyclette. Et j'ai toujours voulu faire une bicyclette, mais j'ai toujours eu peur de me casser le dos ou le bras. Est-ce que tu penses qu'avec la sophrologie, je pourrais réussir à faire une bicyclette un jour ?
Bien, il faut déjà effectivement la faire mentalement. Mm-hmm. Et donc la sophrologie permet effectivement d'anticiper et de se préparer au futur à des gestes. Voilà.
En fait, c'est le passage à l'acte qui bloque. Tu vois, c'est que je m'imagine la faire, mais après sur le terrain, je me dis « Ah !» et là, je bloque.
Bien sûr. Donc ouais. Effectivement, c'est cette préparation mentale par la sophrologie demande un entraînement. Hein, et qui s'allie aussi à la préparation physique et technique. Hein. Il faut associer, bien sûr, les deux.
Et tu l'as dit, tu as travaillé avec le Stade Malherbe de Caen au début des années 90 avec Jean Dupeux, et après en 2015. Mais entre-temps, tu étais en contact, tu travaillais avec l'entraîneur du Stade Malherbe, Patrice Garande. Comment ça s'est fait, cette rencontre avec lui ?
Je pratiquais déjà, j'intervenais déjà à la Ligue de Basse-Normandie de football où je formais les entraîneurs. Au management, à la gestion des hommes, à la gestion d'équipe. Et puis, à ce moment-là, il y avait un ancien entraîneur du Stade Malherbe de Caen, Franck Dumas.
Iconique entraîneur du Stade Malherbe de Caen.
Oui, c'est ça. Et donc, je lui ai proposé. Je lui ai dit, tiens, disons, avec ton équipe, ça, c'est pas terrible. Est-ce que tu veux qu'on travaille ensemble ? Ah non, il me dit non. Et donc, il est parti. Et puis, Patrick Garande l'a remplacé. Et un jour, je l'ai rencontré au café à côté de mon bureau. Puis, je lui ai dit, voilà, je me présente. Et puis, on a commencé à travailler ensemble. Mais là, effectivement, un travail d'accompagnement de l'entraîneur, la première année. Mmh. Et effectivement, cette année-là, l'équipe est passée de Ligue 2 à Ligue 1. Et à ce moment-là, fort de notre expérience, de son expérience avec moi, mais il a souhaité qu'on puisse... Il m'a dit, écoute, ce serait bien que tu travailles avec l'équipe. Voilà, il a commencé à démarrer.
Et tu faisais quoi d'abord avec Garande ? Vous bossiez sur quoi ?
C'était l'amener à comprendre un petit peu ce qu'il pouvait transmettre à l'équipe. ce qui pouvait se passer ou pas et comment il pouvait améliorer sa communication avec l'équipe. Et aussi lui montrer un peu comment une équipe fonctionne, comment un groupe fonctionne et sur quel levier on peut agir pour accompagner cette équipe.
Il avait des doutes un peu sur ses capacités à gérer un groupe professionnel.
Non, il a eu cette intelligence de dire que moi, entraîneur, je ne sais pas tout et je peux apprendre. Et ça a été cette grande richesse qu'il a eue et qui nous a permis de travailler ensemble après trois années.
Tu l'as côtoyé pendant pas mal de temps. Mmh. Il est comment, Patrice Garand, de quotidien?
Oh, je ne vais pas te dire comment il est. Ça reste quelque chose qui existe entre nous.
Non, mais je ne veux pas dire d'un point de vue professionnel, mais d'un point de vue personnel. Est-ce que c'est une personne aimable, attentionnée, passionnée?
Oui, il est tout à fait à l'écoute, passionné, ouais. mais quelquefois, il est peut-être débordé par ses émotions quand il s'agit de gérer un groupe un peu compliqué qui n'a pas toujours des bons résultats.
Hein. Et comment tu juges son travail avec Caen depuis qu'il a repris l'équipe professionnelle, qu'il a réussi d'ailleurs à faire monter en Ligue 1? Comment tu juges son travail, l'ensemble de son œuvre, qui est toujours en cours d'ailleurs?
Ben c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui a une expérience aussi. Il a été quand même un meilleur buteur une année. Il connaît le football, il connaît la tactique, etc. Et c'est vrai que ensemble, je crois que je lui ai permis de découvrir un peu toute cette gestion d'un groupe, etc. Mmh. Même si ça n'a pas toujours été facile. Donc, on a eu une belle aventure, en tout cas.
Ouais. Et donc, c'est lui qui te propose, en janvier 2015, je crois, d'intervenir auprès des joueurs. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il te dit pour t'intervenir auprès des joueurs professionnels de Caen?
C'est-à-dire qu'à la fin, quand on est monté en Ligue 1, il me dit, écoute, moi, je vais demander au président que tu puisses travailler avec moi, avec l'équipe. Et puis, je ne sais pas si tu te souviens, mais l'équipe du Stade Malherbe a rencontré des petits problèmes. En tout cas, le président, il y a eu l'histoire des matchs truqués avec Nîmes, etc. Et ce qui fait que le président a été plus ou moins mis en examen, un peu mis en... Voilà, et ce qui fait qu'on a tardé pour démarrer le travail. Et donc, les matchs allés se déroulent. Et à la fin des matchs allés, l'équipe est dernière du championnat, elle a 15 points seulement. Et donc là, il me dit, écoute, Patrice me dit, écoute, Gérard, je vais en parler au président, là, il faut vraiment que tu viennes. Et donc ça a démarré comme ça, dans un moment compliqué. Et c'est là où, effectivement, toutes les choses ont démarré. Et c'est vrai que c'est plus facile pour un préparateur mental tel que j'étais à cette époque-là, de pouvoir réussir avec l'équipe.
Parce que tu veux dire que c'était plus facile avec une équipe en crise qu'avec une équipe qui commence une saison?
Là, ça a été marquant, hein, comment les choses se sont passées et comment les choses se sont déroulées. Donc voilà, c'est fin décembre, il me dit, écoute, on part en stage au Touquet pendant 3 jours, ce serait bien que tu viennes avec nous, alors dis-moi comment tu veux procéder, etc. Et donc j'ai fait une première séance avec les joueurs pour essayer d'identifier quelles étaient les causes de ce manque de réussite.
Et du coup, c'était quoi les causes de ce manque de réussite?
Alors donc, c'était très, très vaste. Hein. Et donc, j'ai utilisé les méthodes que j'utilise en entreprise. Tout à l'heure, je te disais qu'effectivement, je pratiquais des audits. Là, j'ai fait la même chose avec l'équipe. J'ai réuni l'équipe et je leur ai distribué un questionnaire pour essayer de faire ressortir un peu les causes de ce problème. Donc, l'idée, le travail d'un préparateur mental, c'est de pouvoir permettre à l'équipe de trouver les solutions. C'est elle qui a les solutions. Et donc, c'est l'aider un peu à comprendre les causes. Les causes individuelles, les causes collectives, les causes mentales. Et c'est comme ça qu'on a réussi à identifier les choses. Et lorsqu'on est parti au stage en Touquet, on a tous les matins, on faisait des séances collectives avec le staff pour... comprendre un peu ce qui se passait et surtout libérer la parole.
Et j'ai lu que tu faisais des entretiens individuels avec les joueurs, donc ils venaient chacun dans ton cabinet, je crois, pour discuter en tête à tête. Et comment ils étaient les joueurs par rapport à toi? Est-ce qu'ils étaient un peu intimidés ou ils étaient demandeurs de ça?
Non, je les ai beaucoup gênés.
Ah bon?
Oui, je les ai beaucoup gênés parce que mon travail, moi, c'est de faire parler les gens. Et donc, c'est pas simple pour des footballeurs professionnels qui sont assis en cercle et devoir s'exprimer devant les autres. Je les ai un petit peu violés, mais c'était, pour moi, c'était la seule façon de pouvoir s'en sortir. C'est quand la parole se libère que l'on va créer de la cohésion. Hein. Et donc, effectivement, il y a des gens qui sont exprimés, des gens qui sont adressés à l'entraîneur en disant « Oui, je ne supporte pas la façon dont vous parlez le matin, dont vous me dites bonjour, vous avez les clés de votre voiture dans la main et vous me dites bonjour, qu'est-ce que ça veut dire ?» Vraiment, les choses se sont dites, ça a été violent, mais ça a été vraiment assez, assez fort. Et tout doucement, mais les choses se sont libérées, etc. Et voilà un petit peu comment réussit cette cohésion. Alors, ça peut paraître magique, mais c'est comme ça que ça se passe.
Parce qu'on entend souvent, dans les équipes en difficulté, il y a souvent des réunions de groupe pour essayer de crever l'abcès, c'est l'expression qui est utilisée. Mais on a l'impression que c'est quand même un peu un côté tactique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément tout dire. Et là, le fait que tu sois venu, ils ne pouvaient pas se défausser, en fait, sachant qu'ils t'ont parlé déjà, ils ne pouvaient pas mentir, sachant que tu étais là. Et ils ont pu dire tout ce qu'ils avaient vraiment à dire, et ça a vraiment marché pour le coup.
Oui, parce qu'effectivement, c'est quelque chose que l'on partage. C'est donc tous les non-dits, tous les rancœurs se sont exprimés. Parce qu'il faut dire que, comment on peut expliquer ces choses-là ? Il faut dire que lorsque l'équipe est montée en Ligue 1, le club a recruté des joueurs assez connus, comme Vercoute, comme Julien Ferré, etc. Et ils sont venus avec des salaires plus importants. Leur arrivée a fait que les joueurs qui avaient participé à la montée étaient un peu mis de côté. Et donc, il y a eu une gestion du vestiaire très compliquée, qui a un peu que Patrice a eu du mal à gérer. Et donc, tout le travail qu'on a pu faire, c'était de recréer cette cohésion par des séances collectives, par des entretiens individuels, etc. Voilà. Et donc, ça, c'est ce qui s'est passé pendant 3 jours. Et effectivement, on a gagné des matchs. On a réussi à gagner 4 matchs. Ouais. 12 points en 4 matchs, alors que 15 points avant.
En
19 points. Donc, c'est... Voilà, mais moi, ça ne m'a pas étonné, parce que c'est ce qui se passe. Dès qu'on permet aux gens de s'exprimer, parce que c'est ça le travail collectif, le travail d'équipe, c'est de faire en sorte que chaque individu existe dans le groupe. Et là, c'était vraiment très, très moyen. Pour citer un exemple, Julien Ferré, qui était le capitaine, timide, réservé, c'est pas un leader de vestiaire, mais c'est un leader technique sur le terrain. Donc je l'ai incité à parler, à s'exprimer, comment tu vis les choses, etc. Et puis il s'est mis à parler. Et là, tous ses copains lui ont dit, mais hey, Julien, ça fait 6 mois que l'on vit ensemble, on ne te connaissait pas. Tu vois, il y a eu... Moi, mon travail, c'est de faire en sorte que l'homme existe derrière le footballeur. Parce que souvent, il est caché. Il est caché par l'ego, le footballeur. Donc, l'idée, c'est effectivement que chacun puisse se reconnecter les uns aux autres. C'est comme ça qu'on arrive à créer une cohésion sur le terrain.
Ouais, et c'est ce que tu disais sur Julien Ferré. Je l'ai lu dans un article, je crois, dans Libération, qui t'était consacré, et les joueurs avaient dit... après ton passage, on ne l'a plus reconnu. C'était plus le même Julien Ferré. Ouais. Il ne parlait pas, il était tout timide. Et là, il a dit des choses très, très fortes devant tout le groupe. Et après ça, en fait, ce n'était plus le même homme. Même sur le terrain, il le trouvait quand même un peu plus, entre guillemets, plus rayonnant, plus
fédérateur.
Plus fédérateur, voilà, avec un vrai leadership. Et du coup, il disait que tu étais vraiment pour beaucoup. Et je voulais te demander, lors de ton passage à Caen sur ce séminaire, quel joueur qui t'a le plus marqué, vraiment, dans son approche de la chose ?
C'est difficile à dire. C'est vrai qu'ils ont tous été amenés à s'exprimer et à travers des exercices, parce qu'après les 3 jours, on a continué à travailler par des séances collectives. Et je leur ai fait faire des jeux d'équipe, etc., enfin, où chacun pouvait s'exprimer. Quel joueur ? Je ne sais pas.
Ouais.
Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que... Par exemple, j'ai vu l'ancien capitaine du Saint-Herbe de Caen, Nicolas Seub, qui vraiment, ça faisait, je sais pas, 15 ans qu'il était au stade. Et là, c'est lui qui me l'a dit. Il m'a dit, mais j'ai jamais joué comme ça. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment aussi libéré. Hein. Alors, il serait peut-être pas d'accord pour le dire aujourd'hui, mais c'est ce qu'il m'a dit. C'est qu'effectivement, il a pu exister lui aussi en tant qu'homme. Hein, dans l'aide d'équipe, quoi. Mais Julien aussi, enfin, il y a eu pas mal de joueurs qui ont pu justement arriver à dire des choses et s'impliquer dans ce travail.
Et tu l'as dit, ça a été une grande réussite parce que au final, quand c'est maintenu, en finissant 13e, je crois, lors de cette saison.
Ouais.
Et disons que si quand ne s'était pas maintenu, est-ce que tu l'aurais vécu comme un échec professionnel.
Oui.
Ouais.
Oui, parce que j'ai foi et j'ai confiance dans mes techniques, parce que je les ai éprouvées depuis longtemps dans le monde de l'entreprise, dans les groupes. Et ça ne pouvait que marcher, parce qu'il n'y a pas de secret.
T'étais vraiment confiant.
Oui, parce qu'à partir du moment où on réunit les gens, on leur permet de mettre en commun des rancœurs, mais aussi du potentiel, eh bien, on ne peut que réussir.
Et comment tu as vécu aussi le fait d'être sous les feux des projecteurs? Il y a eu énormément d'articles de presse autour de ton intervention au Stade Malherbe de Caen. C'était quelque chose d'un peu inhabituel. Mm-hmm. Comment tu l'as vécu, toute cette agitation médiatique?
Bon, bah écoute, j'ai pas trop mal vécu ça, parce que moi je suis un militant de la préparation mentale. C'est-à-dire que
donc t'es déjà
j'y crois beaucoup. Moi, j'y crois beaucoup. Je crois beaucoup à cette approche-là, et malheureusement, elle est encore taboue et méconnue. Et donc, le fait de pouvoir en parler dans la presse, etc., ça ne m'a pas gêné, bien au contraire. Mais c'était quand même, j'ai refusé beaucoup d'interviews, et c'était d'un commun accord avec l'entraîneur, parce qu'effectivement, ça pouvait être un peu trop, ouais, à un moment donné.
Et quelle est la différence entre s'occuper de chef d'entreprise et s'occuper de joueur professionnel de football? Il y a une différence dans l'approche pour toi, ou c'est vraiment la même chose?
Pour moi, chef d'entreprise, c'est un sportif de haut niveau également. Et c'est vrai que c'est un peu différent, mais c'est un point commun, c'est-à-dire que ce sont de personnes passionnées par ce qu'ils font, engagées dans ce qu'ils font, etc. C'est vrai que je procède un petit peu de la même façon avec un chef d'entreprise qu'avec un footballeur professionnel. L'idée, c'est toujours de libérer un peu les freins qui puissent empêcher et priver la personne de la performance.
Depuis que tu es arrivé à Caen en 2015, tu es resté combien de temps dans le club?
Trois ans et 4 ans avec l'année où je me suis occupé de l'entraîneur.
D'accord. Et à chaque fois, c'était sur toute la saison, ou genre juste sur un moment précis comme un séminaire ou
C'était sur toute la saison.
D'accord.
Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, mais la deuxième année, fort de ce regain de dynamisme, on a fini 7e quand même.
Effectivement, grosse saison.
On a frôlé la Coupe d'Europe. Et effectivement, et il faut dire que sur l'année civile, 2015, l'équipe a marqué 61 points, avait 61 points.
C'est énorme.
C'est énorme.
C'est autant de points qu'un prétendant à la Ligue des Champions, ouais, voire la Coupe d'Europe. Ouais. Et pourquoi ça s'est fini avec Caen? Du coup, je suppose que tu ne travailles plus avec eux. Pourquoi ça s'est terminé?
Ben non, ça devenait compliqué.
Ouais, c'est-à-dire
La troisième année, l'an dernier, donc la saison dernière, l'équipe était dépressive. Pourquoi? Parce qu'on avait un joueur dont tu as entendu parler, Andy Delors, qui, oui, était l'avant-centre et qui permettait à l'équipe d'avancer, de s'exprimer. Il arrivait par son talent à conclure, à emmener l'équipe. Il est parti. On a eu un autre avant-centre, Santini, qui avait complètement un jeu différent, qui bloquait un peu, enfin, selon moi, hein, cette énergie collective. Ouais. Et ce qui fait que l'équipe n'allait pas bien du tout. Moi, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de séances pour les aider, etc. On n'a pas forcément réussi. On s'est sauvé vraiment.
La dernière journée au Parc des Princes, ouais, c'est but à toute fin. C'est ça. Incroyable, ouais.
Et puis, les tensions commençaient à apparaître entre moi et le président et le directeur général, Xavier Gravelin.
D'accord.
Qui a toujours eu du mal un peu à accepter ma présence. Non, il a eu du mal à accepter ma présence.
C'est-à-dire que c'est des méthodes qu'il ne comprenait pas, qu'il n'approuvait pas forcément, il trouvait que c'était peut-être un peu inutile, c'est ça?
Moi, je l'avais connu comme joueur, Xavier Gravelin, quand j'étais intervenu en 90. Et effectivement, il n'avait pas besoin de ça en tant que joueur pour être un bon footballeur. Et c'est vrai que c'est Patrice Garand qui avait imposé ma présence. Mais Xavier Gravelin arrivait dans le club et il a eu du mal à accepter que je sois un peu pour quelque chose dans la réussite du club, quoi.
T'es pas un peu triste d'avoir arrêté avec le Stade Malherbe?
Non.
Non.
Il faut jamais faire un match de trop. Moi, j'ai anticipé et j'ai dit, oula. C'est pas bien.
Et depuis, on t'a rappelé pour intervenir auprès d'autres équipes de foot, ou de joueurs, ou d'autres sportifs dans d'autres,
oui,
d'autres
disciplines? Oui, je travaille avec des sportifs individuels, des footballeurs en individuel, et ouais, puis aussi des lanceurs de marteaux, des athlètes, etc.
Et là, en ce moment, à l'heure où on enregistre, donc on est le 10 mai, 11 mai, on enregistre le 11 mai, est-ce que tu as des joueurs dont tu t'occupes en ce moment, là?
Pas des joueurs professionnels, des joueurs qui sont en national.
Ouais. D'accord. Mmh. Même à ce niveau Ouais. En troisième division, les joueurs ouais. font appel à toi.
Oui, ça arrive, oui.
Ok, moi je trouve ça super cool. Super. Et dans une interview, tu as dit, c'est l'interview, je crois, dans Libération, je ne sais plus, tu as dit que les coachs n'étaient pas suffisamment formés à la gestion de groupe et à la préparation mentale. Comment tu l'expliques que, alors que ce sont des hommes et des femmes qui doivent gérer un groupe, ils ne soient pas assez formés sur ce plan-là ?
Mais généralement, ce sont des anciens footballeurs, hein, des anciens techniciens, et effectivement, ils mettent en avant un peu leurs connaissances, leur expérience, etc. Et c'est vrai que gérer un groupe, c'est pas simple. Hein, et que même dans les formations hein, qu'ils ont hein, sur le management, ils ont ces approches-là, mais ça reste quelque chose de très compliqué de gérer un vestiaire. Et que c'est pour ça que quelqu'un d'extérieur peut aider effectivement la personne, l'entraîneur à mieux entraîner.
Tu penses qu'on devrait insister un peu plus sur la psychologie ?
Oui. Ouais. Bien sûr, parce que c'est fondamental. C'est fondamental parce que c'est très compliqué de gérer 25 joueurs. Il y en a 11 qui vont jouer. Et gérer ceux qui ne jouent pas, c'est pas simple.
Hein. Bah, de toute façon, c'est la grande phrase qu'on dit des sélectionneurs, choisir c'est renoncer. Donc
c'est un métier très stressant. Ouais. C'est vraiment quelque chose de très compliqué. Et si l'entraîneur n'a pas ce recul, n'a pas cette possibilité de se confier à quelqu'un à l'extérieur, de discuter, eh bien ça l'empêche peut-être.
Et en termes de gestion de groupe et de préparation mentale, qui sont les entraîneurs aujourd'hui qui assurent le mieux, selon toi ?
Je ne sais pas, je sais que Didier Deschamps est assez, assez friand de ces choses-là. Il semble effectivement bien comprendre et bien gérer ces problèmes-là.
Tu l'as déjà rencontré ?
Non.
Non ? T'aimerais bien...
Bien sûr.
Mais... Ouais ? Tu lui dirais quoi ?
Bon, ben, je ne sais pas. Est-ce que tu aurais besoin de mes services ? Parce que je ne pourrais pas me permettre de lui dire... c'est vrai que c'est intéressant. Oui.
Et par exemple, un entraîneur comme Guardiola, qu'on cite comme un grand tacticien, tu penses que dans l'approche mentale, il est aussi très bon ?
Je ne connais pas assez. Je ne sais pas très bien, mais visiblement. Hein, c'est vrai qu'il a quand même aussi ces aspects-là qui sont assez... proche.
Et tu penses que pour être un grand entraîneur, il faut aussi être un bon manager dans le sens où il faut gérer un groupe ?
Bah oui, c'est ça. Hein. C'est la gestion des hommes hein, qui est le plus compliqué, comme dans une entreprise. Hein. Qu'est-ce qui va faire problème ? Qu'est-ce qui va au contraire permettre la performance ? C'est les hommes, c'est la façon dont ils s'impliquent. Voilà.
Et avec ton expérience de plus de 30 ans, est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes un match de foot, tu arrives à voir si un groupe vit bien ou pas ? Est-ce que ça... Ce fameux langage non-verbal, est-ce que ça t'arrive à le voir en regardant un match de foot ?
Pas toujours, hein, parce que c'est pas toujours visible. Hein. Mm-hmm. C'est pas toujours visible, mais on voit bien que quand les joueurs se font confiance, quand un joueur va se battre pour l'autre, ça se sent. Mais quand le joueur va être là un petit peu indifférent et il va se planquer en disant pourvu que je fasse pas de faute, enfin essayer de se planquer, ça se voit aussi.
Et dans un monde idéal, quel joueur t'aurais aimé coacher ? Vivant ou même...
Gourcuff.
Johan Gourcuff ? Ouais. Ah oui, effectivement.
Parce qu'il est passé à côté de sa vie de footballeur. Ouais. À côté de sa vie de footballeur. Et j'aurais bien aimé pouvoir l'aider. Parce qu'il y a quelque chose en lui qui n'a pas pu être détecté. Voilà.
Mais c'est vrai qu'on disait souvent que toutes ces blessures qu'il avait, c'était aussi des blessures psychologiques. Ouais. C'était vachement dû à ça et... Après sa saison à Bordeaux, c'est vrai qu'on ne l'a plus trop vu.
Ouais.
Et c'est vraiment dommage, comme tu l'as dit,
qu'il
est un peu passé à côté de sa carrière qui aurait dû être très très grande. Donc voilà. Et le meilleur joueur que tu aies jamais coaché, c'est qui ? Que tu as eu sous tes ordres, entre guillemets, je peux m'exprimer ainsi.
Le meilleur joueur, moi, les meilleurs joueurs, je les ai connus à Caen.
Ouais.
Simplement, hein, c'est pas, j'ai pas une grande carrière dans le football professionnel, malheureusement, en tant que préparateur mental. C'est difficile, moi je peux pas te dire voilà c'est tel joueur que j'ai peut-être le plus aidé. Non, je peux pas, c'est pas possible.
Et on va parler un petit peu du Stade Malherbe de Caen. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce club, selon toi ? C'est un club qu'on peut pas détester en Ligue 1, sauf si on est à vrai. Mais à part ça, tout le monde aime le Stade Malherbe de Caen. Comment tu l'expliques ?
Tout le monde ?
Bah je pense.
Oui, c'est un club familial. Ouais. C'est un club qui a des valeurs familiales, qui sait, disons, regrouper, rassembler une région. Hein, ça, c'est un club régional, c'est sûr. Qu'il essaie de, il y a un bon centre de formation et ils essaient de privilégier un peu la recrue aussi locale. Hein, voilà, il y a quand même quelques joueurs dans l'équipe qui sont issus de la Basse-Normandie. Hein, et donc, voilà, je pense que ça s'explique comme ça. Et puis, une gestion de bon père de famille par le président Fortin. Hein, c'est vrai que, mais bon, c'est en train de changer. Là, visiblement, là, c'est, tu entendras ça bientôt dans la presse. C'est en train de bouger.
Et concrètement, le grand club de Normandie, c'est Caen ou Le Havre?
Bah, pour l'instant, ces dernières années, c'est Caen quand même.
Ouais.
C'est Caen. Hein.
Mais ça existe vraiment ces petites guéguerres entre Normands, entre Havre et Canet?
Ça existait, ça existait. Il faut espérer que Le Havre un jour retrouve la Ligue 1.
Ouais.
Parce que c'est effectivement, ça va mettre un peu d'animation.
Et toi, t'es supporter du Stade Malherbe?
Oui, bien sûr, j'ai toujours eu mon abonnement au Stade Malherbe, etc.
C'est quoi tes plus beaux souvenirs avec ton club?
C'est pas mon club d'abord, mais je me dis c'est les matchs qu'on a gagnés. C'est là où vraiment l'équipe a vraiment explosé, a exprimé tout son talent. Et là, j'ai pu vérifier justement les théories ou les hypothèses que je faisais sur la vie d'un groupe.
C'est-à-dire?
Bah, c'est que effectivement, lorsque les joueurs se font confiance, lorsque les joueurs arrivent à avoir un objectif commun, qui soit plus fort que les objectifs individuels, c'est effectivement quelque chose de très de superbe.
Bah ouais, ça me fait penser. On a reçu Alou Diarra il y a quelques semaines dans Banquette, et il nous disait qu'à Bordeaux, le noyau, enfin son entourage proche, c'était Diawara, Gourcuff, Chamac et Bélion. Et en fait, en regardant, c'était un peu quand même le noyau dur, la colonne vertébrale du Bordeaux champion 2009. Comme quoi, un groupe qui vit bien et des personnalités fortes qui vivent bien, bah en fait, ça tire l'équipe vers le haut. Donc du coup, ça vérifie aussi un peu ce que tu dis, complètement. Ouais.
C'est-à-dire qu'un joueur va exprimer tout son talent, à partir du moment où le groupe le protège, le groupe lui permet d'exprimer les choses. Mmh. Mais à partir du moment où une équipe connaît de mauvais résultats, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sur le terrain, c'est les joueurs qui me disaient ça, ils me disent, moi, quand ça n'allait pas, eh bien, je faisais en sorte de ne pas trop me montrer. Je voulais éviter de faire des erreurs, éviter de faire perdre l'équipe, quoi. Donc chacun se planque à ce moment-là. Ils le disent vraiment assez facilement en disant, mais ils me le disent à moi, ils ne vont pas le dire à leurs collègues. Mais voilà. Alors que quand tout va bien, eh bien, tout le monde, effectivement, il y a une espèce de confiance qui existe entre les joueurs. Et c'est ce qui fait l'unité, c'est ce qui fait la cohésion.
Ouais.
Et qui donne cette espèce d'état de grâce que l'équipe de Caen a pu connaître dans ces années 2015-2016.
D'ailleurs, c'est assez exceptionnel parce que Caen, c'était un club qui avait l'habitude de faire ce qu'on appelle l'ascenseur.
Le yo-yo, oui.
Et là, depuis donc 3-4 saisons, ils sont...
Ça va être la cinquième saison.
La cinquième. Tu avais déjà vu
donc c'est la première, la première fois, je crois, qu'ils vont réussir à se maintenir pendant 5 saisons.
Du coup, tu penses que tu as quand même une grande part de responsabilité là-dedans?
Bon, une petite part, en tout cas, j'ai bien aimé lorsque Patrice Garande dit dans le France Football, l'année 2014-2015, si on ne travaille pas avec Gérard Baglin, on descend en Ligue 2. C'était sympa qu'il me puisse reconnaître ça.
Effectivement. Et c'est quoi tes premiers souvenirs de foot? On va parler un petit peu de toi et de ton rapport au foot. Ça commence quand?
Moi, ce qui m'a intéressé, si ça t'intéresse de savoir un peu...
Bah oui, c'est pour ça qu'on est là.
Qu'est-ce qui m'a amené à m'intéresser à la préparation mentale? Effectivement, quand j'avais 12 ans, je suis venu de ma campagne, parce que je suis fils de paysan, et je suis venu dans un club structuré, là où il y avait des matchs de championnat, etc. Jusque-là, j'étais le meilleur. Je me voyais en équipe de France, bien sûr. J'étais le meilleur et dans ma campagne, dans les champs de mon père. On était 4 frères, on jouait ensemble. Et puis là, j'arrive, j'avais 12 ans, dans ce club, dans la commune où mon père était né, justement. Et là, j'étais complètement stressé. J'arrive dans les vestiaires, mais les joueurs me regardaient. J'étais complètement coincé, complètement timide. Et là, j'ai découvert quelque chose que j'imaginais pas. C'est-à-dire que comment, sur le terrain, eh bien, j'étais à côté de mes chaussures, quoi. Vraiment, je savais pas. J'étais complètement inhibé. Et c'est là où ça m'a un peu interpellé. Toute cette idée de préparation mentale, c'est venu de là. C'est ce que je raconte aux joueurs quand je m'occupe d'une équipe. Et c'est pareil dans l'athlétisme. J'ai fait un peu d'athlétisme, mais J'étais très bon à l'entraînement, en compétition, j'étais là, mais j'avançais pas. Et ma tête, c'est là où j'ai compris que ma tête commandait les jambes, et c'est ce qui m'a intéressé un petit peu après coup, et de ça, pouvoir ça m'intéresser
fait,
à ça.
Ça me fait penser, on en parlait un petit peu en off avant de commencer l'enregistrement, mais l'exemple de l'athlétisme avec Asafa Powell, qui est un sprinter jamaïcain que j'ai vraiment adoré dans les années 2000, qui a battu, je crois, deux fois le record du monde du 100 mètres, et qui, en grand championnat, avait toujours ce problème mental qui faisait qu'il passait à travers, en fait. Et c'est vraiment à partir de lui que j'ai compris que voilà, en fait, on a beau être techniquement très bon, physiquement très fort, si la tête, ça ne suit pas, bah, en fait, le reste ne suivra pas. Et c'est vraiment l'exemple d'Asafa Powell, pour moi, le plus marquant, je trouve. Et aussi parce que bon, j'ai fait de l'athlète à un petit niveau, et c'est vrai qu'à l'entraînement, ça allait bien. Et quand il fallait faire des vraies courses, bah, là, ça allait un peu moins bien. Donc, c'est complètement par rapport à ça. Et donc, c'est ça qui t'a amené à faire le métier que tu fais maintenant ?
Oui, c'est ça. En ce moment, je suis en train de suivre un lanceur de marteau qui a ce problème-là, c'est-à-dire qu'il est très bon à l'entraînement, très bon en meeting. Et dès qu'il est dans un championnat de France en l'occurrence, eh bien, il perd ses moyens. Et donc là, on est en train d'analyser un petit peu le pourquoi de tout ça. Mais effectivement, il y a quelque chose dans sa tête qui bloque à ce moment-là. On est en train d'essayer de réfléchir à tout ça et d'essayer de changer les choses.
Et donc, tu disais que tu arrives, quand tu étais jeune, à 12 ans dans le club de la ville de ton père, et que tu es un peu inhibé. Et tu as quand même continué à jouer au foot ou ça t'a complètement stoppé ?
Ah non, j'ai joué pendant 20 ans.
Ouais.
Foot. Et donc, tout doucement, bah, j'ai pu comprendre un peu tout ça. J'ai pu dépasser tout ça, bien sûr. Mm. Je suis devenu un footballeur pas trop mauvais malgré tout, mais toujours, être dans une équipe, exister dans un groupe, c'est compliqué. Mais si un joueur n'est pas bien dans sa tête, n'est pas bien dans un groupe, n'est pas reconnu, n'existe pas, aux yeux de son entraîneur, aux yeux de ses collègues, c'est compliqué pour lui d'exprimer son potentiel.
Ouais. Quel conseil tu donnerais à un jeune sportif qui doute un peu de ses performances ? Quel conseil tu lui donnes pour justement passer outre ?
Bah, c'est d'essayer de travailler ça. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de préparateurs mentaux qui existent. Il ne faut pas hésiter. C'est pas parce qu'on va mal. On ne va pas forcément voir un psy ou voir un préparateur mental parce qu'on va mal. Au contraire, c'est parce que on a conscience qu'effectivement, on n'exprime pas tout son potentiel. Et à ce moment-là, effectivement, c'est toujours intéressant de pouvoir en parler avec quelqu'un d'extérieur. C'est pas toujours facile avec l'entraîneur, c'est pas toujours facile avec les parents, parce que les parents ou l'entraîneur attendent beaucoup de choses du sportif de haut niveau. Et donc, moi vraiment j'encourage cette démarche.
Et t'as pas des petits conseils à faire, des petits exercices à faire à la maison par exemple pour justement enlever l'inhibition en compétition officielle ?
Alors il y a deux types de préparation mentale. Je distingue deux choses. Il y a la préparation psychologique et la préparation mentale. Alors, la préparation psychologique, c'est effectivement s'intéresser à tout ce qui fait partie de la personne, toute sa psychologie personnelle, comment sa psychologie l'a façonné en tant que sportif. La préparation mentale, c'est utiliser les techniques, les outils, comme la sophrologie, comme tout un tas de choses, la respiration, tout un tas de choses, la visualisation, qui vont permettre justement de rendre les choses un peu plus efficaces. Mais moi, je pense qu'il faut utiliser les deux. C'est-à-dire essayer d'aider la personne à comprendre un peu mieux ce qui se passe en elle. Pourquoi, par exemple, elle a du mal à exprimer son potentiel. Je peux te citer le cas d'une athlète que je suis
récemment. Oui, par exemple, ouais.
C'est une athlète qui fait du demi-fond, elle fait du 1500 mètres. Et puis, elle est venue me voir parce qu'effectivement, il y avait des moments où elle n'avait plus de jambes, où elle n'était plus dans la course, etc., etc. À force, au fur et à mesure des séances, on a pu comprendre, c'est là où la préparation psychologique est très importante, on a pu comprendre qu'effectivement, détecter que lorsqu'elle s'échauffait avant ses courses, eh bien, elle le faisait avec ses copines du club. Elle était bien. Et puis, elle allait se soucier de ses copines du club. Alors, comment ça va ? Comment tu te sens ? Etc. Mais elle s'était complètement oubliée, elle. Elle ne pensait pas du tout à elle. Et donc, elle a compris qu'effectivement, pendant ses courses, eh bien, elle avait tendance à regarder ses concurrentes, etc., à se soucier des autres. Et donc, ça faisait partie de sa psychologie. On a pu comprendre un peu comment son passé l'avait amené à développer ce type d'attitude par rapport aux hommes. Et donc, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu pourrais faire ? Parce qu'effectivement, le rôle d'un préparateur mental, ce n'est pas de lui donner des solutions, mais c'est de lui faire émerger des solutions. Hein, on dit le coach mental, c'est quelqu'un qui va permettre à la personne d'accoucher de ses propres solutions. Et qu'est-ce qu'elle m'a répondu quand je lui ai dit, bah, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire ? Comment tu peux corriger ça ? Elle m'a dit, bah, c'est vrai que finalement, je pourrais m'échauffer seul, je pourrais, avant la course, je pourrais passer un petit moment avec mes copines de club, mais au bout d'un petit moment, faire mon échauffement, me concentrer, parce qu'il y avait ce problème de concentration. Et effectivement, la compétition suivante, elle a été complètement libérée de ça, et elle a pu penser à elle. Vous voyez, tu vois, la préparation psychologique, c'est ça. C'est aider la personne à comprendre qu'est-ce qui, dans sa personnalité, va l'amener à se comporter de telle façon. Parce que si je veux aller trop vite sur la préparation mentale, c'est dire, bah tiens, tu vas utiliser telle technique, etc., etc., tu passes à côté. Tu vois. Donc, préparation psychologique, préparation mentale, c'est deux choses différentes.
Dans quelques semaines, il y a la Coupe du Monde de football qui va débuter en Russie. Et je pense qu'on se rappelle très bien de la précédente qui s'est déroulé au Brésil. Et on se rappelle aussi de la fébrilité des joueurs brésiliens, complètement un peu dépassés par l'événement. Toi, c'est quelque chose qui t'a marqué aussi, en tant que préparateur mental ?
Bah oui, quand on voit notre ami Thiago Silva. Silva louper ses pénaltys, il y a quelque chose effectivement qui lui a échappé. Enfin, il y a quelque chose effectivement. Alors, d'où ça tient, je me souviens plus trop un peu les circonstances qui s'est passé, mais effectivement ils sont passés à côté.
C'est impressionnant parce qu'à chaque hymne national on voyait les joueurs pleurer, il y a vraiment beaucoup d'émotions quoi, et on a vu Thiago Silva un peu se défiler. Le seul qui a un peu assumé son statut, c'était Neymar qui était encore très jeune à l'époque, et après il y a eu sa blessure et ça a un peu plombé l'équipe, et c'était vraiment assez déroutant de voir ça en Mondiovision, que toute une équipe nationale passer à travers juste d'un point de vue un peu psychologique, mental, quoi. C'était assez impressionnant. Ouais.
Je ne sais pas comment on a compris ça, je n'ai pas trop...
C'est apparemment ce qui ressortait du vestiaire. Les joueurs étaient très stressés par rapport à l'événement, le fait de jouer une Coupe du Monde devant leur public,
leur pays,
chez
bien
eux,
sûr, bien sûr.
Un grand pays de foot, c'était assez compliqué. Et donc là, la France va commencer son mondial bientôt. Quel conseil tu donnerais à Deschamps pour bien mettre ses joueurs sur les bons rails ?
Moi, j'ai pas de conseil.
J'ai pas de conseil.
J'ai pas de conseil en particulier à donner. C'est pas un coach mental ou un préparateur psychologique ne va pas être dans le conseil. Moi, j'ai plutôt essayé d'aider la personne à repérer qu'est-ce qui peut la rendre plus performante. C'est beaucoup d'écoute, c'est beaucoup de questionnement, si tu veux. Mais j'évite de dire des conseils parce que j'ai en face de moi des professionnels, j'ai en face des gens qui sont compétents, qui m'ont pas attendu pour fonctionner. Et c'est seulement se mettre à l'écoute de ce qui peut être amélioré, de ce qui peut freiner la performance. Et à ce moment-là, c'est eux qui ont la solution. Quand une équipe est sur le terrain qu'elle ne gagne pas, c'est eux. Qu'est-ce qui se passe dans l'équipe pour qu'elle ne gagne pas ? Et c'est effectivement de les interpeller, c'est de les questionner un peu là-dessus, par des systèmes d'audit, etc., etc. Et donc, c'est pour ça que je ne suis pas dans le conseil, en disant « il faut être comme ci, il faut être comme ça ». Non.
Donc, on arrive à la fin de cette interview, Gérard. Et dernière question, si on te donne la possibilité d'intervenir dans un club de manière régulière ou une sélection de manière régulière, t'aimerais aller où, au choix ?
Ça peut être un club de Ligue 2 qui souhaite aller en Ligue 1. Ça peut être une équipe qui souhaite effectivement devenir plus performante. Mais
il n'y a pas un club dans lequel t'aimerais être tous les jours côtoyer vraiment l'entourage du club, dire voilà, ce club-là ou cette nation-là, voilà, j'y suis, quoi, j'en fais partie. Ouais.
D'abord, je préférais un club.
Tu préfères un club, ouais.
C'est vrai que j'ai été approché, j'aurais bien aimé travailler avec le Maroc.
Ouais.
Parce que j'ai, en tant que professionnel, dans mon métier de consultant, j'ai travaillé avec le Maroc, etc. Et je connaissais Nasser Larguet, qui est maintenant directeur technique national, qui a été à Caen. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé donner un coup de main à ce club pour... voilà. Mais bon, ça se dit, ça ne s'est pas fait.
Peut-être.
Ce sont des gens qui, quand on les voit jouer sur la plage de Casablanca, ils jouent en permanence au foot. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, de voir cette équipe quand même qui... Bon, sauf cette année quand même, elle va à la Coupe du Monde.
Mondial,
mais voilà. Et puis le club, je sais pas, Marseille, c'est vrai que c'est quelque chose.
Merci, ça me fait plaisir. Supporter de l'OM, ça me fait grandement plaisir. Ouais, j'espérais que tu le dises et tu l'as dit. Voilà, on peut finir cette interview parfaitement. Et juste avant de se quitter, où est-ce qu'on peut te lire, te voir? T'as une actu en ce moment?
oui, j'ai peut-être à intervenir. En ce moment, je suis en train de développer une activité. Enfin, ça fait un moment que je la développe, comme je te le disais, le travail avec le cheval. Mm-hmm. Et je vais sans doute travailler avec les arbitres de Ligue 1 et de Ligue 2.
D'accord.
Pour les aider à comprendre un peu, à mieux gérer leur communication non verbale. Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une technique, c'est une méthode. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est une actualité.
Très bien. Voilà. Donc, on verra les arbitres la saison prochaine
préparés
par Gérard Baguin.
Bah, entre autres.
Très bien. Bah, merci, Gérard, d'être venu dans Banquette, d'avoir répondu à nos questions. C'était un grand plaisir. Et puis, j'espère à bientôt.
Un plaisir partagé.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci à Gérard Baguin d'avoir accepté notre invitation. Si vous voulez réagir à cet épisode et pourquoi pas nous donner vos conseils en préparation mentale, ça se passe sur nos réseaux Twitter, Facebook et Instagram. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence. Comme toujours, merci à vous les banquettistes pour votre soutien. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Banquette. Ciao !